Pour en parler, nous avons Valérie Mangin, qui a étudié à l'École nationale de Chartres, qui est latiniste, qui est historienne de l'art et qui est surtout scénariste de bande dessinée, aujourd'hui notamment pour Alix Senator. Christophe Arleston.
Bonjour.
Bon, qui a une formation de journaliste, d'où la précision extrême de ses écrits, et qui est probablement celui d'entre nous qui a le plus de succès, qui gagne le plus, avec une quantité d'albums effrayante. Combien d'albums vendus à ce jour ?
Vendus, mon éditeur dit autour de 14 millions, je n'ai pas été vérifié.
Voilà. Et puis nous avons Jean-Luc Histin.
Bonjour.
Qui est dessinateur pour les séries Contes du Corian, Brume, scénariste pour de multiples séries, dont Merlin, les druides, et puis surtout la série Android, qui nous intéresse là particulièrement aujourd'hui pour le cyborg. Et puis Denis Bajram, créateur de l'affiche officielle de l'édition des Utopias de cette année, principalement connu pour la grande saga Universal War, qui se tournait au troisième épisode maintenant de la saison 2, on va dire. On va parler de saison sur trois saisons théoriquement prévues. Alors, pour commencer à parler du phénomène du cyborg dans la science-fiction et notamment dans la bande dessinée, je vous proposerais que l'on tente dans un premier temps de définir exactement ce qui peut recouvrir le terme de cyborg, parce que ce n'est pas toujours aussi simple que ça en a l'air. Est-ce que quelqu'un est intéressé par se lancer ?
Alors, je crois que Jean-Luc a quelque chose à dire justement, parce qu'il voulait immédiatement préciser la différence entre cyborg et android.
Ah non, pas du tout. Non, il est vraiment... Non, mais t'es vilain, t'es affreux. Je voulais dire que je ne suis pas spécialisé dans le cyborg, mais je suis content d'être avec vous. Hein. Alors, on va quand même en parler, on va discuter à propos. Mais moi, effectivement, c'est plutôt l'android, donc la machine complète, etc. Le cyborg, j'ai bien compris, c'est mi-homme, mi-machine, c'est Robocop, Steve Austin, etc. Bon, bah, allons-y, il n'y a pas de souci. Malgré tout, j'ai remarqué qu'il y a une petite différence. Enfin, je ne sais pas si ça parle à quelqu'un, mais dans Terminator, il parle aussi de cyborg. Et là, par contre, c'est une machine entourée juste de chair humaine. Ça fonctionne aussi, je ne sais pas.
On va revenir au départ, en fait, d'où vient le mot. Voilà. Parce qu'en fait, cyborg, c'est un mot qui a été inventé dans le cadre de la conquête spatiale. Dans les années 60, je pense, on réfléchissait à ce que devait porter comme équipement sur lui un homme pour pouvoir aller dans l'espace. Et il y a des gens qui ont proposé de faire des organismes cybernétiques, donc des hommes complétés capables de vivre dans l'espace. Ce qui est assez amusant, c'est que le cyborg le plus célèbre arrive juste après, est un astronaute.
C'est Steve Austin. C'était un tennisman des années 70.
Voilà, c'est un astronaute officiellement, Steve Austin. Donc on voit que le lien de la conquête spatiale reste, et le roman Cyborg qui a servi à faire l'homme qui valait 3 milliards, qui porte ce titre-là, Cyborg, hein, le roman, raconte vraiment l'histoire d'un astronaute horriblement blessé et qu'on va réparer avec de la technologie bio-ionique, comme on dit en français, bionique en fait en anglais. Voilà, donc c'est vraiment l'idée au départ de compléter l'homme pour cette conquête spatiale qui a fini après par évidemment donner beaucoup d'autres choses, mais voilà.
Oui, toute l'idée c'est effectivement finalement de rapprocher le cyborg d'un homme augmenté, amélioré, alors réparé tout simplement. Mais par contre, c'est vrai qu'on peut voir cette différence davantage évidemment que dans le cadre d'Android où c'est pas évident. C'est pour ça que concernant Terminator, c'est pas si évident là.
Ils ont utilisé le terme. Je me souviens à l'époque, on avait eu des discussions là-dessus, mm-hmm. parce que de fait, on était sur un robot qui était mis dans une structure organique parce qu'il était camouflé sous la peau. Donc c'était une sorte de jeu. De dire que c'était un cyborg aussi, mais en l'occurrence, c'était un androïde complété par un organisme, au lieu d'être un organisme complété par de la mécanique. Donc c'était une sorte de gag. Le problème, c'est que derrière, évidemment, quand on fait des gags comme ça, il y a toujours des gens qui finissent par dire cyborg à la place d'androïde, et le mot a un peu perdu de son sens à une époque à cause de ça. Quoi.
Je crois que le cyborg, avant tout, se définit comme ayant une base humaine, et donc une âme humaine, c'est une personnalité avec une profonde humanité, qui est augmenté par des parties technologiques. Alors que l'androïde, c'est un robot qu'on essaye d'humaniser ou non, mais c'est un robot. Donc le cyborg est avant tout un être humain.
Alors, pour reprendre l'exemple de Cyborg et de l'homme qui avait 3 milliards, la série qui en est sortie, c'est même souvent un homme qu'on répare, en effet. On voit ça dans Robocop, dans beaucoup de choses, et qui en souffre énormément. Dans le roman initial, et c'est, on voit ça dans les premiers, dans le pilote de la série, Steve Austin, une fois qu'il se découvre avec des jambes bioniques, avec un œil réparé, enfin, étant un espèce d'hybride entre un monstre mécanique et un homme, veut se suicider. Et il y a toute une phase suicidaire chez le personnage, avant qu'il admette que, l'air de rien, c'est vachement bien de pouvoir sauter par-dessus un immeuble. Mais vous voyez, on est dans un mythe initialement qui est en effet celui de l'homme souffrant éventuellement de ne plus être complètement un homme. Donc c'est bien un problème humain, foncièrement humain, totalement humain. Voilà.
Ça ramène à la définition de l'humanité à chaque fois.
Oui, tout à fait. J'ai lu le roman il y a très longtemps, mais je me rappelle qu'effectivement, il y a toute une... En fait, une des intrigues majeures, c'est l'arc narratif psychologique dedans. C'est qu'au départ, il y a un réel refus, tout simplement, de la transformation, parce que paradoxalement, il y a dans le roman une augmentation des capacités physiques, mais elle se traduit aussi par une perte d'identité corporelle. À partir du moment où on a des jambes ou des bras remplacés, on n'est plus tout à fait soi, il y a une perte d'intégrité. C'est-à-dire que l'avantage n'est perçu qu'après coup.
Oui, puis il y a vraiment la question de l'humanité, c'est-à-dire qu'à partir de quel moment n'est-on plus un humain pour devenir une machine ? C'est-à-dire on remplace les jambes, on est toujours un humain, on remplace les bras, on est toujours un humain aussi. Où s'arrête-t-on finalement, quoi ?
Si on remplace la tête. Si
on oui, quand la on tête, remplace ouais. le cerveau et qu'on ouais, commence, il y a plusieurs romans où on commence à intervenir dans la structure cérébrale, à rajouter des éléments mécaniques à la structure cérébrale. Et là, se pose vraiment la question qui est généralement résolue par la présence de la mémoire. On garde la mémoire humaine, donc on est censé être un humain, même si cette mémoire s'exprime à travers des supports mécaniques.
Oui, oui. J'ai développé dans le dernier Robocop, d'ailleurs... le problème, justement, du libre arbitre, etc., puisque une partie est machine, l'autre partie est un cerveau humain classique, mais l'un peut ordonner à l'autre.
Oui, puis on voit ça en BD aussi dans la série du Métabaron, où on nous explique à chaque tome que pour devenir un vrai Métabaron, il faut sacrifier une partie de soi-même. Et je crois que c'est dans le tome 4 où le Métabaron sacrifie sa tête, en fait. Mmh. Sa tête est remplacée par... on ne sait pas vraiment ce que c'est dans la série, mais sans doute par une tête de robot.
Enfin, il l'appelle tête de fer, je crois.
Il l'appelle tête de fer, voilà, c'est ça. Et où vraiment, l'accomplissement pour lui, pour le héros, c'est d'avoir cette tête mécanique et finalement de devenir...
Et a priori, il ne perd pas sa mémoire. Donc, en effet, on sent bien que c'est la mémoire et qui est le centre de l'âme quasiment toujours quand
oui,
on parle de ça.
Oui, qui est le fil conducteur de l'humanité.
Oui, alors, ça, mais de toute façon, ça, c'est une question à laquelle je ne vais peut-être pas trop m'épancher là-dessus. Mais je suis un peu dans ce problème depuis quelques années parce que ma mère est en train de mourir d'Alzheimer. Et il y a un moment, il y a vraiment des jours où je me demande jusqu'à quel point, finalement, elle est encore elle. Dans le sens où bon, le problème d'incapacité physique, bon, ça se gère. Mais à partir du moment où c'est vraiment la personnalité, la mémoire qui disparaît, là, c'est la personne qui s'en va. Et je ne sais pas si je peux encore la considérer exactement de la même façon que c'était le cas il y a 10-15 ans. Voilà. Bon, c'était une parenthèse personnelle, je suis désolé. Mais en fait, c'est vraiment en fait cette problématique-là, on peut la voir, même indépendamment du support cyborg ou autre, c'est finalement la définition de la personne.
On en parlait un petit peu ce matin en parlant de ce dont on avait parlé, mais est-ce que Iron Man est un cyborg ? Il porte une armure qui le transforme intégralement en surhomme. Il est à ce moment-là un homme machine complet, mais c'est vrai qu'il peut la retirer.
C'est un exosquelette et il est intact en dessous.
Voilà. Et surtout, à la seconde, il la retire, il redevient l'homme qu'il était avant. Donc on voit bien la limite de l'augmentation. C'est bien le moment où ça devient complètement attaché à soi-même et on ne peut plus s'en séparer. Donc voilà, ces lunettes ne font pas de nous un cyborg.
Est-ce que la coquille du Bernard l'Ermite est vraiment indispensable au Bernard l'Ermite ?
Est-ce que Goldorak est Goldorak sans son robot finalement ?
Enfin, voilà. sans son pilote.
Mais par contre, en BD ou au cinéma d'ailleurs, ce qu'il y a de très amusant, c'est la représentation qui en est faite. Là, on voit des images défiler depuis tout à l'heure. Et pour illustrer des cyborgs, on nous montre des parties mécaniques, métalliques, parce que pour exprimer à l'image qu'on a affaire à des cyborgs, on est obligé de montrer cette partie métallique. Or, d'un autre côté, on sait très bien que si on va vers là, le but, c'est au contraire de cacher tout ça et d'essayer, comme dans Terminator d'ailleurs, de donner une apparence humaine extérieure complète. Ce qui, en bande dessinée ou au cinéma, nous amènerait à avoir des acteurs absolument non modifiés, mais ce qui ne serait pas spectaculaire. Donc, pour correspondre aux besoins du média, on est obligé de transformer les réalités vers lesquelles on pourrait aller.
Ce qui est amusant, c'est...
Je ne suis pas sûre, parce qu'en fait, on voit bien actuellement qu'il y a... Je pensais à Oscar Pistorius, qui lui a des gens qui ne ressemblent plus à des gens parce qu'on a préféré l'efficacité finalement à l'apparence purement humaine. Donc on pourrait imaginer des cyborgs qui choisissent aussi d'être purement efficaces, purement fonctionnels, aux dépens d'une apparence purement humaine en fait.
Ce qui est amusant, c'est que le premier cyborg qu'on a vu dans la culture populaire, ça a été Steve Austin. Donc en fait, dans la série télé, on ne voit pas du tout, à part faire ch'tang, dong, 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 de temps en temps, il n'y a pas de moyen de savoir qu'il est bionique. Et moi, tout gamin, Marvel avait créé un personnage juste derrière qui s'appelait Deathlok, qui doit être l'un des tout premiers cyborgs de la bande dessinée. Et évidemment, qui venait, Steve Austin doit être de 73, le personnage est apparu en 74, donc c'est vraiment le tout début. Et alors, tout gamin, je me souviens, il était arrivé, alors il avait la moitié de la tête, en effet, en métal, un bras, un bout de machin, il ressemblait vraiment à ça. Et moi, je détestais ça, parce que je lui disais, mais il est moche. C'est quoi ces conneries? Regarde Steve Austin, il sort dans la rue, personne ne voit rien, mais après, hop, il défonce la porte avec son poing, c'est vachement pratique. Donc il y avait un rejet, moi je me souviens, gamin immédiat de ces formes-là. Et DC Comics, donc le concurrent dans les super-héros, a amené le sien dans les années 80, tout début je pense, qui s'appelle Cyborg, c'est très original. Et qui a exactement cette tête comme ça, assez mochouille. Et c'est des personnages que les fans n'ont jamais aimés réellement, sauf les fans tordus, parce qu'on en croise toujours, mais là ils sont là, ils veulent que ça. Donc on sent qu'ils ont envie de se reconstruire eux-mêmes, probablement. C'est quand même un personnage. Alors pour ceux qui suivent les séries Marvel à la télé, on a vu ce personnage de Deathlok, on l'a vu apparaître dans Agent of S.H.I.E.L.D., la série sur les agents du S.H.I.E.L.D. qui passe sur W9, je crois, et où on voit le personnage de Cyborg. Il y a un gars comme ça qui se fait réparer au fur et à mesure de la série. Qu'est ce personnage-là dans une version ultime? Voilà, c'est juste pour faire le point sur les comics super-héros. Ouais.
Mais je voulais justement, et tu en as parlé, parler de la... de l'homme qui valait 3 milliards, parce que bon, à l'époque de la production de cette série, de toute façon, on n'avait pas vraiment les moyens techniques pour faire quelque chose de vraiment visuellement crédible. On aurait pu, mais enfin bon, avec le maquillage par exemple, oui. Bon, mais enfin encore une fois, les séries télé en plus à l'époque avaient vraiment des budgets assez ridicules, donc ça aurait été difficile. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est en fait que ça pose vraiment la problématique de la représentation graphique, que ce soit tourné, dessiné ou autre, c'est pas la question. Et ils avaient réussi quand même quelque chose d'assez malin, en fait, uniquement par la bande son, le ralenti et le montage. Parce que franchement, effectivement, quand tu parles du tout doudou doudou doudou, alors que pour exprimer de la force, alors que justement on le voit en train de courir au ralenti, alors qu'il est censé aller justement très très vite, paradoxalement, ça faisait la blague. C'est un paradoxe, mais ça faisait vachement bien la blague.
C'est un paradoxe qui est justement visuellement très utilisé par le manga. Oui. Pour exprimer la vitesse dans le manga, on multiplie les images, ce qui normalement devrait ralentir les choses, et ça les accélère en réalité.
Mais évidemment, c'est vrai qu'il y a cette question de représentation. S'il n'y avait pas eu ce parti pris de mise en scène pour la série, rien n'aurait permis, à part dans le scénario évidemment, d'identifier le personnage principal comme étant un cyborg. C'est pour ça que laisser dépasser des bouts de métal ou avoir des yeux laser ou des bon, genre de choses que l'on voit là, c'est une solution de facilité quelque part, mais enfin, au moins, ça a le mérite de mettre les points sur les i et de lancer l'histoire.
Moi, je veux dire qu'en tant que lecteur, ça me bloque. Un peu comme Denis avec le premier héros Marvel dont il parlait. Je vois un type à moitié métallique, ça me bloque parce que je n'arrive pas à rentrer, ça me semble pas crédible. J'ai depuis 2 ans un personnage de cyborg dans une de mes séries qui s'appelle Les Naufragés d'Ithac. C'est un personnage féminin qu'on connaît depuis plusieurs albums. Et d'un coup, elle a un accident, elle se fait trancher la jambe. Et là, oh, surprise, on ne l'avait pas dit jusque-là, on s'aperçoit que dedans, c'est de la technologie qui fait tenir sa jambe. Mais extérieurement, c'était totalement invisible jusque-là. Et après qu'elle ait été réparée, ça redevient invisible. Ça me semble beaucoup plus crédible que des gens se promenant avec des morceaux, des plaques de ferraille boulonnées, quoi.
De toute façon, il y a un élément contemporain qui relève du cyborg, c'est le pacemaker. Et on va pas commencer à péter la poitrine de chacun pour vérifier qu'il en porte un, qu'il est un cyborg
avec un petit hulot.
Voilà, c'est ça, c'est très joli.
C'est amusant parce qu'on a, donc ces cyborgs au tout début, enfin Steve Austin qui est un humain parfait, puis ça commence à se prendre des plaques, et puis finalement on arrive à Robocop, où là on a une mâchoire encore humaine, et le cyborg fait ah, « bonjour, je suis un humain », ce qui est assez effrayant. Et au début du film, si mes souvenirs sont bons, il y a une scène de massacre où le pauvre policier qui va devenir Robocop se fait mettre en pièces détachées littéralement. Il le mitraille, c'est ça, à tour de bras, jusqu'à que tout tombe. Et on voit bien que on est sur des cycles comme ça où on passe du en effet de celui qui ressemble à un homme à celui qui ressemble à un robot. Et c'est presque que la question de à quel moment il était encore un humain alors que c'est devenu un robot. En fait, il est présenté comme tel. Et puis après, on est redescendu puisque quelques années après, on est sur Dragon Ball. Peut-être les cyborgs les plus célèbres pour les jeunes générations, où on a trois cyborgs qui en fait ont des têtes d'humains à tel point qu'on se demande pourquoi on les appelle des cyborgs à part leur super force, ils ressemblent aux autres super guerriers qu'on peut voir dans le manga ou dans le dessin animé correspondant quoi.
Je crois que c'est ceux-là qu'on préfère, ceux qui ont l'air le moins robotique possible. D'ailleurs, pour en revenir à l'homme qui valait 3 milliards, je ne sais pas si Steve Austin, à un moment donné, est présenté comme un cyborg dans la série télévisée.
On voit le bras ouvert.
On dit toujours, oui, bien sûr, on le voit, mais on parle d'un homme qu'on va reconstruire dans le générique. À aucun moment, on parle d'homme transformé en robot.
C'est
ou
que le
de
terme
n'est
pas utilisé. Oui.
Le terme n'est pas utilisé, en fait.
C'est un homme avant
tout. C'est un homme réparé, un homme alors il sera plus fort, plus rapide, plus je ne sais plus quoi, mais c'est toujours un homme. On n'en parle jamais comme d'autre chose.
Ouais, je crois que le générique, c'était Steve Austin, un homme tout juste vivant. Messieurs, nous allons le reconstruire.
C'est ça, voilà. C'est-à-dire qu'on va bien en refaire un humain complet. Hein. Aucun moment, on vous dit, on va le transformer à moitié en machine. Ou.
Et le titre cyborg du roman a été abandonné, en effet. C'est vrai que le mot n'est jamais utilisé dans la série. Quoi.
Le mot n'était pas très populaire à l'époque et il n'aurait sans doute pas assez parlé au grand public, tout simplement.
Oui, encore, c'est des mots qu'on croisait parce que il y avait les cybernautes dans les chapeaux moulins à bottes de cuir, les cybermen dans les Doctor Who à l'époque. Ce mot cyber était monté en puissance à l'époque.
Ça faisait moderne.
Ah oui, les cybernautes les cybermen dans Doctor Who. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont vu les Doctor Who maintenant que la série a repris un coup de neuf. On est pareil à des humains totalement déshumanisés. De l'extérieur, il ressemble à Iron Man quasiment, et dedans, on a l'impression qu'il reste pas beaucoup de cerveau, quoi. Et c'est pareil, c'est la vision de la Robocop du moment où il reste rien d'humain dans le cyborg. Donc et pourtant, c'est bien les Cybermen. Il y a même le mot homme dans le nom. C'est assez amusant. On sent qu'il y a une volonté de rappeler quand même que vaguement, peut-être à une époque, il y avait eu un humain. Et on voit dans un épisode assez terrible où des personnages qu'on aime bien dans la série se font choper. Et deviennent des cybermen comme ça, ils sont totalement déshumanisés. Donc c'est vraiment bien, là, toujours la question, est-on humain encore quand quasiment tout son contenu organique est remplacé par de la mécanique, quoi.
Est-ce qu'on pourrait parler de cyborg avec des extraterrestres, par exemple ? Parce que Denis parlait de Doctor Who, donc ça m'a fait penser aux Daleks, qui sont des extraterrestres emprisonnés aussi.
Des jolies petites poubelles à roulettes.
Ouais, exactement, dans des poubelles à roulettes. Est-ce qu'on peut parler de cyborg pour les extraterrestres ?
C'est vrai que dedans, il y a en effet un reste
cerveau.
De forme biologique. Ouais, c'est ça, oui. Et voilà, la question que tu en
parles. Mais j'étais en train de me dire que
il y en a dans Star Trek. Hein. Des Anglais auraient pu nous répondre.
Il y en a dans Star Trek, hein, du cyborg, finalement. Le cube en est rempli.
Ah oui, les Borg. Exact. Oui.
La version effrayante du cyborg.
Ah oui, exact. Il contamine les gens, remplace. Les rendant mécaniques et faisant partie. Alors là, c'est la déshumanisation en plus, parce que en devenant un membre de la ruche, mais plus aucune personnalité. Donc on voit bien la déshumanisation est présentée par ce côté je deviens le serviteur de la ruche, je n'ai plus d'identité personnelle.
Mais dans ce cas-là, c'est la robotification d'une personne, donc qui perd son statut d'humain. Et quelque part, ça me fait penser que ça serait une excellente histoire de croiser. Un cyborg se déshumanisant et un androïde s'humanisant, et ça pourrait faire une rencontre de personnages assez passionnante. Bon, bah au boulot.
Ah, merci pour les idées, au revoir.
Alors, sinon, il y a aussi une autre question, c'est pourquoi finalement a-t-on quand même assez peur du cyborg ? Il y a quand même, il y a quelques personnages qui sont neutre ou sympathique, enfin je veux dire on n'a aucune antipathie particulière pour l'homme qui valait 3 milliards
Sauf son assureur, hein, il trouve que ça fait des primes un peu chères
quand même, c'est vrai, bon. Mais par contre la plupart des rôles de cyborg ne sont enfin bon il y a des justiciers évidemment, mais de manière générale, d'abord un, c'est vrai qu'on a du mal à s'identifier à eux, et ensuite ils ne sont pas forcément bien perçu, enfin perçu positivement, on va dire ça.
Je crois que c'est le fait qu'il soit à la fois proche de nous et très différent, en fait. Il nous parle de la monstruosité qui sommeille peut-être en nous, et ça qui nous met mal à l'aise. Je pense que le cyborg, c'est plus vraiment un humain, c'est autre chose, mais en même temps, c'est un peu nous quand même. Donc c'est peut-être un peu la pire part de nous qui pourrait ressortir tout d'un coup. Est-ce qu'on a... Et en même temps, je m'imagine la peur de la mutilation, de la mort, toutes ces choses-là.
C'est un peu comme les X-Men, finalement. Ça propose une sorte de mutation. Donc tout ce qui est un peu différent et frais, surtout si en plus, grâce à ce fonctionnement de machine, etc., on acquiert une sorte de pouvoir, on peut déplacer des choses plus facilement, etc., on peut devenir très flippant pour le commun des mortels, et donc à ce moment-là, on peut s'en méfier, effectivement. Mais après, dire qu'on s'en méfie, qu'ils ne sont pas très sympathiques, ça dépend pour qui. Moi, j'ai un gamin qui adore ça. Hein. Et je pense qu'il y a pas mal de gosses qui sont fascinés par ces types, mi-homme, mi-machine, qui peuvent avoir des pouvoirs incroyables. Le cyborg en question, qu'on voit qui est très laid, finalement, de chez DC Comics, je sais qu'il est attendu par plein de gamins et que beaucoup veulent le voir à la télé, etc. Donc, voilà, quoi. Peut-être générationnel aussi. Hein.
Alors, ce qu'il y a dans le personnage du cyborg, c'est que, très souvent, dans la plupart des fictions qu'on connaît, l'individu n'a pas choisi de devenir un cyborg. Il devient un cyborg soit après un accident, des gens décident pour lui, soit des gens décident pour lui sans qu'il ait eu d'accident, mais il est victime d'une manipulation. Donc ça nous le rend plutôt sympathique, même s'il peut développer après des choses inattendues et effrayantes. Ceux qui font peur, c'est ceux qui ont choisi de se transformer eux-mêmes. Et qui ont choisi donc dans quel but ? Pourquoi vouloir être plus ? Pourquoi vouloir être plus fort, plus puissant, plus dangereux, justement ? Donc à ce moment-là, il peut y avoir une peur et une répulsion.
Pour plaire aux filles ?
Pour plaire aux filles, oui. Mais la plupart des cyborgs n'ont pas, enfin des personnages, des héros cyborgs n'ont pas choisi de l'être. Et d'où ce que disait Denis tout à l'heure, le fait que ça passe par une phase de dépression chez le personnage, par tout un questionnement sur lui-même et son identité.
Et sinon, alors, au niveau de vos travaux personnels, au niveau scénario, où en êtes-vous du cyborg ?
Moi, je vais commencer. Hein. Là, en fait, j'étais venu avant, j'ai rencontré des amis qui m'ont dit, dis donc, t'as fait Android, pourquoi tu fais pas cyborg maintenant ? Je dis oui, pourquoi pas, mais pas totalement convaincu, mais là, avec tout ce que j'entends, là, je dis qu'il y a quelque chose, il y a une matière. Hein. Donc,
il faut verser 10% d'utopia, maintenant.
Ah oui, tu crois ?
Non, pas de projet. Non.
Alors, moi, à titre personnel, on m'a souvent dit qu'Universal War One, enfin, l'ensemble du projet Universal War, a même petite tendance, encyclopédie de la SF. J'aborde un nombre de sujets incalculables, le voyage dans le temps, la guerre spatiale, les extraterrestres, etc. Mais j'ai pas du tout pensé au cyborg. Je parle d'IA, enfin, d'intelligence artificielle, ce genre de choses. Mais alors, j'avoue que le cyborg, mais rien. Alors, c'est amusant, parce que c'est donc un des rares trucs que j'ai pas mis dans mon histoire. Et alors, sur le scénariste du film qu'on est en train d'essayer de faire d'après ça, scénariste américain installé, la seule transformation qu'il a apportée, c'est qu'il a transformé un personnage en cyborg. À croire qu'il n'y avait pas assez de choses déjà dans le récit, qu'il fallait en rajouter un. Et il a pris mon pire personnage, c'est là que ça devient intéressant, le fameux personnage du violeur, là, qui est très désagréable. Et il en a fait un cyborg pour justifier ses actes en disant que c'est toutes les drogues qui s'injectent pour supporter les augmentations militaires qui lui ont été greffées qui le rendent fou, en fait. Comme si les fous par eux-mêmes n'existaient pas. Mais... Et c'est intéressant parce que voilà, moi j'ai été confronté au cyborg sur mon travail, mais pas de mon fait, mais à cause d'un spécialiste du scénario américain, comme quoi.
Mais c'est un paradoxe parce que bon, dans Universal War, il y a quand même un certain nombre d'éléments typiques de la SF qui sont, on pourrait dire, pratiquement improbables. À savoir, voyage dans le temps, paradoxe temporel, enfin, toutes sortes de choses. D'ailleurs, tu le développes dans les BD. Il y a souvent des explications pour expliquer que en fait, le voyage dans le temps n'est pas possible ou que le paradoxe temporel ne l'est pas, et ainsi de suite. Bon. Et le cyborg est probablement technologiquement ce qu'il y a de plus facile à réaliser. Par contre, finalement,
on a commencé
et d'ici 10-20 ans, avoir des membres artificiels, par exemple, qui fonctionnent parfaitement, ne posera, à mon avis, pas de problème, puisqu'on là, on arrive déjà à avoir quand même... Il y a 2 ans, on a réussi à créer des jambes qui permettaient de monter un escalier, ce qui, quand même, était une performance au niveau technique. Là, on y arrive, clairement.
L'œil artificiel, la dernière fois que je me suis renseigné là-dessus, les gens, on arrivait à leur faire voir dans le cerveau des matrices de 8 points par 8 points. C'est pas grand-chose, hein. Mais quand on arrive à faire sentir 8 points sur 8 points, donc 36 pixels, bon, on a commencé l'informatique avec à peu près ça. Hein, donc on sent bien qu'on est à quelques années de pouvoir afficher dans le cerveau des aveugles, entre autres, mais même de tout le monde, des images directement filmées ou même créées de toutes pièces. Hein, donc on sent bien que toutes ces technologies-là sont au bord. Et il y a une bonne partie des géants de l'informatique américains, dont Google en tête, qui dans leur manière d'envisager l'avenir, c'est aussi l'augmentation technologique de l'homme. Qui travaille sur tout ça. Donc, en effet, là, on est au bord de l'homme ionique. Il est à la porte, quoi. Plus que l'intelligence artificielle.
Ça répond un peu à ta question de tout à l'heure, qui est pourquoi est-ce qu'on a peur des cyborgs. C'est que, justement, la question se pose toujours de qui est en train de présider à ces évolutions, pourquoi et dans quel but. Et dans ce cas-là, on est toujours un petit peu parano face à toutes ces... Alors, c'est soit l'armée, d'un côté, évidemment, l'armée qui est toujours le plus gros prescripteur d'avancées technologiques, soit des multinationales dont on n'est pas toujours persuadé qu'elles aient les meilleures intentions pour nous.
En plus, moi, je me demandais si les gens accepteraient de se faire amputer d'une jambe pour se faire passer par une jambe meilleure. Ça me paraissait quand même un peu violent. Mais quand on voit ce que les gens peuvent se faire subir physiquement avec la chirurgie aujourd'hui, se faire implanter des espèces de plaques de polystyrène sous les épaules pour ressembler à Hulk, on a un peu l'impression que le rapport au corps est en train de changer et qu'en effet, en plus, on aura des générations de plus en plus prêtes à subir ces éventuellement des ablations pour avoir des augmentations. Quoi.
Ceci dit, on n'est pas... à mon avis, obligé de passer par l'ablation. Il y a, d'une certaine façon, un cas de cyborg, donc d'homme augmenté, qui ne montre pas de traces extérieures. Ça serait tout simplement un homme qui serait bourré de nanotechnologie dans son circuit sanguin, qui permettrait d'avoir une meilleure oxygénation, de réparer les tissus. Bon, il serait hybride, donc il serait résolument cyborg, mais non, il n'y aurait aucune possibilité de le voir de l'extérieur.
Je crois beaucoup plus à ces solutions-là dans l'avenir qu'aux plaques de métal rivetées qui défilent sur les écrans. C'est vrai qu'à travers les nanotech, on va aller de plus en plus vers des choses implantées à l'intérieur de l'organisme qui seront totalement invisibles, qui vraiment modifieront la vie au quotidien de tout le monde. La première idée étant pas forcément d'améliorer, d'augmenter, mais déjà de ramener toute une population à la normale. Et là-dessus, il y a un réel avenir qui, lui, est beaucoup moins effrayant que ce qui était évoqué tout à l'heure.
Dans Universal War One, je fais une vraie prédiction de Cyborg dans le 2, puisque tout le monde a un implant de communication qui est l'exact équivalent de notre smartphone d'aujourd'hui. Donc, quand le téléphone portable est arrivé, je me suis dit qu'il n'y aurait quand même pas grand monde pour prendre cette laisse. Se pendre cette laisse autour du cou, être toujours disponible, que les gens ont envie d'avoir un peu la paix. Et en fait, non. Voilà, on est tous devenus des. On se demande qui est le patron parfois entre le smartphone et l'humain.
Non, on se demande pas, on sait.
et voilà, donc il est probable en effet que cette chose hyper invasive qui serait d'avoir ça dans le cerveau directement connecté en direct, je pense qu'il y aura quelques vieux. Enfin, ça marchera jamais. Et il y aura toute la jeunesse pour jeter dessus parce que franchement, pouvoir faire Facebook en direct sans avoir besoin de taper, ce sera franchement génial, quoi.
Il y avait les Google Glass pour ça.
Oui, alors ça, enfin, qui n'ont pas marché, justement. Ça, c'est intéressant. J'y pensais tout à l'heure, pendant qu'on était en train de parler.
Trop visible,
voilà un échec de la technologie, de l'augmentation de l'homme, très visible. Dont l'homme n'a pas voulu.
Les gens arrivaient dans les restaurants et se faisaient agresser parce qu'ils avaient des Google Glass. Il y avait marqué sur leur visage qu'ils étaient en train de filmer autour d'eux. Donc les gens ne voulaient pas être observés, etc. Donc en effet, là, on sent bien que l'augmentation, elle devra être discrète. Et on ne saura même pas qui est augmenté et qui ne l'est pas, même. Ce sera assez étonnant. Il va y avoir sans doute une phase de flottement où on croisera des surhumains et des humains en même temps.
Je crois que les premières augmentations visibles pourraient venir par la médecine, par contre. Je pense que les gens qui ont été amputés ou qui subissent un handicap hésiteront beaucoup moins à avoir des prothèses visibles si vraiment
le retour à la normale dont on parlait,
oui. Je crois que la médecine est un grand point d'entrée vers le cyborg, oui.
Mais pour nous, auteurs de bande dessinée, il n'y a rien de très visuel là-dedans. Donc c'est vraiment dans le fond, c'est dans le propos, mais à l'image, bande dessinée au cinéma, à l'image, finalement, on n'aura pas grand-chose de plus à montrer, et encore moins qu'au cinéma, parce que tu parlais tout à l'heure de l'homme qui valait 3 milliards du travail sur la bande-son. Ça, on ne l'a pas en bande dessinée, la bande-son, donc on va devoir trouver d'autres moyens d'exprimer ça. Et ceci dit, c'est là où il y a un défi qui peut être marrant.
Après, il est possible que pendant un certain temps... les deux avancées, soit par un plan nanotechnologique, soit par des grossières jambes, etc., cybernétiques, puissent fonctionner en même temps jusqu'à ce que l'un domine l'autre. C'est un peu comme pour l'essence, l'électricité, pour les voitures pendant une période, etc. Ça n'empêche pas l'un et l'autre, puis c'est le meilleur qui gagne au final, quoi.
Pour repartir sur le sujet de la représentation, parce que finalement, c'est le fantasme passe quand même par l'acceptation visuelle ou auditive ou autre. C'est vrai que en cinéma, c'est quand même beaucoup plus facile de le faire passer, ne serait-ce que parce que, encore, on en parlait pour l'autre jour pour le robot, on a le mouvement qui permet quand même déjà de donner une information, et puis il y a le son. Pour la BD, et on le voit aux images, ça c'est ce que j'ai trouvé en fait sur internet, et je me suis aperçu que bon, d'abord il y avait quand même beaucoup de super-héros qui étaient en humain augmenté, parce que ça permet déjà, ce sont des personnages finalement qui sont hors du commun, parce que souvent avec des apparences physiques très musculeuses, et donc rajouter quelques plaques de métal, finalement ça n'ajoute pas grand chose en bizarrerie, mais on a assez peu de personnages qui soient ordinaires, avec une apparence de cyborg, sauf dans certains cas, et là encore on revient à la culture japonaise qui utilise énormément cette imagerie. En France, finalement, on pourrait se poser la question, il n'y a pas beaucoup d'exemples, ni en BD, ni en cinéma. Il y en a un peu, mais pas tant que ça, si on compare avec États-Unis et Japon. Pourquoi ?
Oui, Valérie, pourquoi ?
Oui, pourquoi, répondez.
Excellente question. Je sais qu'à titre personnel, je n'ai jamais travaillé sur le cyborg, et c'est vrai que ce n'est pas un thème qui m'inspirait à proprement parler. J'ai même un peu paniqué, j'avoue, quand on m'a invité à cette table ronde. Parce que c'est vrai que dans la BD, j'en voyais très peu à part le Métabaron. Et pourquoi ? Peut-être des problèmes de représentation dont tu parlais, ou peut-être que dans la BD, on peut faire des choix un peu plus radicaux, c'est de savoir séparer ou parler de robots, ou parler d'humains. Et pour parler du monstre, peut-être en venir à des créatures fantastiques qui sont peut-être plus faciles à représenter en BD, comme le monstre de Frankenstein, qui est un peu le grand-père de tous les cyborgs. Peut-être des créatures comme ça, mais je n'ai pas vraiment de réponse à ça, je crois que...
Le Frankenstein, ça doit être un cadavre augmenté dans ce cas.
Oui, c'est ça.
Alors, j'avais une question. Est-ce que, aux spécialistes de l'Heroic Fantasy, est-ce qu'il y a des exemples dans l'Heroic Fantasy de personnages augmentés par la technologie ? Alors, de type médiéval, on va dire, évidemment.
Alors, dans le steampunk, il y en a certainement, mais je ne suis pas un grand spécialiste du genre. Mais de toute façon, la question de l'augmentation de la personnalité, du personnage, des capacités, on l'a, oui, à travers la magie. De toute façon, il y a des personnages magiquement augmentés, de la même manière que les super-héros sont augmentés d'une certaine manière, c'est-à-dire représenter des personnages qui ont des capacités, des pouvoirs que nous n'avons pas. Après, que ça soit technologique, magique, tout dépend du cadre. Mais finalement, le questionnement autour de la problématique humaine et psychologique que ça pose est toujours la même, quel que soit le cadre.
Et c'est vrai que c'est amusant, c'est un sujet même, voilà, où on serait attendu, on aurait pu imaginer qu'un nain ait forgé un bras mécanique à un personnage, mais je vois pas ça en fait. Je m'y connais pas non plus énormément. Mais...
Si, on peut voir ça, mais je crois que ça se voit déjà dans certains jeux de plateau avec des nains qui ont inventé des technologies un peu poussées. J'avoue que le scénariste qui travaille avec moi sur la série Nain avait des envies très pressantes de pousser la technologie sur les nains. Je l'ai un peu ralenti parce qu'effectivement, j'avais un côté un petit peu... j'ai envie que ça reste un peu fantasy, plus simple, plus
médiéval,
modéré.
Ouais.
Et plus médiéval, ouais, effectivement. Ceci dit, il l'a encore dans un coin de sa tête. Effectivement, il veut que les nains fassent une avancée technologique à un moment ou à un autre. Donc c'est un débat qu'on a ensemble. Et effectivement, un nain avec un bras articulé, particulier, etc., comme ça, c'était prévu aussi.
Parce que cela dit, c'est vrai que le cyborg n'existe pas dans la mythologie antique. On a des robots. On a par exemple Talos, qui est le gardien de la Crète dans la mythologie grecque, ou les automates qui servent Héphaïstos, le dieu forgeron dans ses travaux. Mais on n'a pas vraiment de mélange entre l'humain et le mécanique comme ça. Enfin, j'en vois pas.
Alors qu'ils adorent les hybrides avec
les
animaux.
Les animaux avec.
C'est ce que j'allais dire, c'est qu'il y a beaucoup de métamorphoses. Donc du coup, on reste dans le biologique,
voilà,
mais on ne fait pas intervenir la technologie.
À aucun moment, il y a un soldat, il n'y a pas de myrmidon qui fusionne avec son armure ou de choses comme ça, par exemple.
Il y a les premiers robots qui sont les golems.
C'est peut-être un des mythes les plus récents, le cyborg. On est en train de mettre le doigt sur quelque chose. Oui. Si ça se trouve, dans les mythes de parlant de l'humanité, on a un mythe nouveau, là, qui est le mythe de l'hybride, qui apparaît dans les années 60, si ça se trouve.
Alors, c'est vrai qu'il y a le golem, mais en même temps, avec le golem, on reste quand même dans l'opération entre guillemets magique, puisque bon, il y a le phylactère, les mots qui permettent d'animer la statue de Glaise. Donc,
il n'y a pas d'humain au départ, en plus.
C'est
comme la créature de Frankenstein.
Je disais robot, pas cyborg, ouais. Puisque là, on part d'une créature artificielle, on part pas d'un humain qu'on modifie.
Et en plus, même pas vraiment technologique.
Et la créature de Frankenstein, si elle avait des remontées de souvenirs de la boîte crânienne qu'on lui aurait mis en morceaux, ça aurait été éventuellement un cyborg, mais non, c'est pas le cas, puisque c'est une sorte de créature informe qui n'a pas aucun souvenir de d'une quelconque partie de ses. Donc on est vraiment sur quelque chose qui n'existe pas vraiment.
Non, mais la différence par rapport au golem ou à Frankenstein avec le cyborg. C'est que tout simplement le cyborg a une conscience d'exister. Il n'est pas créé de toutes pièces.
La créature de Frankenstein aussi a une conscience de son existence, par contre.
Oui, mais elle ne préexistait pas à son état d'hybride.
Oui, voilà. Et puis il est tellement fabriqué. Enfin, c'est un tel patchwork biologique. Est-ce qu'il a vraiment encore une conscience unique?
Oui, très nettement. Oui, c'est un des grands sujets du roman, justement.
Oui, mais
le problème de cette conscience humaine dans un corps qui est totalement inhumain.
Il faut lui réapprendre à peu près tout.
Il découvre spontanément l'amour, il cherche la communication avec les humains.
Notion de bien et de mal, quand même, sont à revoir.
Il se rend pas compte qu'il fait le mal, parfois. Ouais. Oui.
Et tu vois, c'est marrant parce que tu parlais du fait du cyborg comme une créature préexistant à son état de cyborg, un humain préexistant à l'état de cyborg. Et je pensais à ce que tu venais de dire sur les nanotechnologies. Et d'un coup, j'avais cette image du fœtus lui-même qui commence à être habité par des nanotechnologies, donc d'une créature qui naît cyborg. Là on a vraiment quelque chose de potentiellement intéressant à développer.
Et ce sera la normalité du cyborg. Enfin, un cyborg enfin normal, puisque quand on est ce qu'on est, quoi.
Oui. Bon, ben...
C'est bon, ça.
Oui, c'est pas mal.
On va faire un truc, là.
Alors, ceci dit, l'idée est très intéressante, mais alors du coup, question philosophique, à quel moment deviendrait-il un cyborg? Je veux dire, à quelle étape embryonnaire?
Justement, c'est là où... Mais c'est pour ça que cette question du cyborg est intéressante, comme celle de l'androïde l'est dans l'autre sens, je parlais de croisement tout à l'heure. C'est parce que moi, tout ce qui m'intéresse là-dedans, c'est quel est le rapport à l'humanité? Et à quel moment est-ce qu'on n'est plus humain, on est surhumain, on est au-delà de l'humain, on est dans une évolution de l'humain naturel, non naturel. Qu'est-ce qu'on peut définir comme naturel, non naturel? C'est tout un champ de questions absolument passionnantes pour l'auteur qui s'ouvre.
Il y a évidemment la relation aussi à la religion, à savoir jusqu'à quel point peut-on modifier un être humain. Parce que là, on se pose, c'est un peu l'histoire également du golem et de Frankenstein dont on parlait, on se pose en concurrent direct avec le dieu de la civilisation dans laquelle on se situe. Jusqu'à quel point peut-on fabriquer une vie qui, pas de toutes pièces, donc, mais quand même suffisamment modifiée pour qu'elle constitue une nouvelle entité.
Y a-t-il un croyant parmi nous déjà?
Ça dépend si on est bouddhiste ou judéo-chrétien.
C'est pour ça que j'étais très très large sur la notion de dieu et de croyance.
Je ne sais pas quelles sont les positions des églises sur les modifications corporelles qu'on fait actuellement. Je crois que pour l'instant, il n'y a pas d'opposition.
Je crois que ça n'existe pas vraiment à leurs yeux.
Mais en pratique, l'homme n'a jamais cessé de modifier le vivant, ne serait-ce que le végétal, pour commencer. L'animal ensuite. Donc,
pas lui-même réellement, donc...
Pas lui-même, et c'est ça quand même, au départ, si on prend la culture judéo-chrétienne, le monde est à disposition de l'homme, pas de l'être humain. Donc, quand le père Clément fabrique la clémentine en croisant des espèces, finalement, il ne se met pas vraiment en porte-à-faux. Par contre, si on commence vraiment à toucher au couronnement, entre guillemets, de la création, là, et puis, on touche à autre chose.
Et puis on oserait insulter l'image de Dieu, parce que l'homme est créé à l'image de Dieu. S'il commence à se modifier par rapport à Dieu, ça veut dire qu'il s'en détache.
Il modifiera l'image qu'il a de Dieu, et puis voilà.
Ouais, oui, mais ce que je veux dire, c'est que est-ce que les croyants, est-ce que la curie romaine acceptera que l'homme ne soit plus à l'image de Dieu? Je pense que sur ça, comme sur tout le reste, ils vont nous figer le débat tout de suite et immédiatement dès que ça arrivera. Quoi. Sauf, ah non, faut rien toucher.
Sauf en même temps, s'il y a vraiment une relation directe d'image, ça signifie que Dieu est également un cyborg. Et dans ce cas, il faut repeindre la chapelle Sixtine parce qu'il y a eu des erreurs d'interprétation au départ.
En plus, les deux doigts... Pardon.
Non, c'est vrai que le cyborg pourrait même devenir à terme un concurrent de Dieu, parce que le cyborg peut être potentiellement immortel si sa partie mécanique l'est, en fait. Si on peut transférer sa mémoire de cerveau mécanique en cerveau mécanique...
C'est le cyborg
ultime. Rien
n'empêche
d'être immortel, éternel.
Le cyborg ultime qui est le corps robotique avec l'âme qu'on arrive à... Enfin, l'âme ou la mémoire, enfin, tout ce qu'on pourrait appeler la pensée humaine qu'on arriverait à transporter là-dedans et à implanter là-dedans, où il ne resterait plus rien de biologique, à part ce qui est si important pour nous, le « je pense, donc je suis », notre « nous » profond. Est-ce que c'est encore un cyborg à ce moment-là quand tout...
mais ce qui est assez amusant, c'est que là, on raisonne uniquement en termes de technologie. Or, ce qui se passe aujourd'hui, à part les recherches vers les nanotech, c'est surtout chercher à modifier le biologique et augmenter l'homme à travers le biologique, pas le technologique. Et j'ai quelque part l'impression que cette phase de la technologie, c'est quelque chose de très 19e, 20e siècle, et que la fin du 20e siècle a déjà passé le stade suivant, et le 21e encore plus, qui est que les évolutions vont être plus en pilotant la biologie que la technologie, pour obtenir les mêmes résultats, hein, pour arriver aux mêmes fins.
Oui. Donc, chez Google, ils veulent clairement déplacer notre intelligence dans des machines. Hein. Oui. Donc là, c'est la biologie directement à la poubelle, parce que franchement, c'est mortel et c'est problématique. Hein.
Des machines très biologiques.
Non, il y en a une partie qui veulent vraiment nous mettre dans des machines.
Oui, on va voir s'ils y arrivent, ceux-là. Voilà. Moi, je crois plus que les autres ont
oui,
plus
pense,
de chance.
Je pense à la cité des permutants, évidemment, où là, l'esprit est directement envoyé dans le réseau. Il n'y a plus de corps. Ça pourrait être considéré comme l'étape ultime du cyborg.
Oui. Le moment où il resterait ce qu'on appelle l'âme, enfin, c'est, même oui. Si on n'y croit pas, mais c'est, voilà.
La mémoire et la conscience.
Oui, voilà, c'est cette chose qui fait le jeu.
On va se tourner vers vous. Est-ce que vous auriez quelques questions?
Je vois quelqu'un déjà au milieu. On voit pas beaucoup avec les...
Est-ce que si un être humain modifié par un plan nanotechnologique, mais vraiment très très modifié, une femme par exemple, mais enceinte ensuite, fait un enfant, est-ce que l'enfant est un cyborg ou pas? C'est la question. Du coup,
ça fait pas partie de l'héritage génétique, mais
si la c'est de la nanotechnologie que c'est bah, franchir, ça peut passer les...
Ouais, franchira-t-elle la barrière voilà, placentaire? Oui, c'est on transmet certaines choses à nos enfants et d'autres s'arrêtent enfin pas chez l'homme mais chez la femme, s'arrêtent à la barrière placentaire. Donc voilà, ce sera ce genre d'enjeu. Oui, est-ce qu'on contaminera nos enfants immédiatement avec notre flore nanotechnologique, on va dire? C'est...
Est-ce que dans ce cas-là, être enceinte a encore un sens? Est-ce qu'avoir un sexe a même encore un sens? D'ailleurs, si on imagine une fusion entre l'humain et la machine, est-ce que finalement on aura encore besoin d'avoir des hommes et des femmes?
Ah, j'ai cru que tu voulais supprimer mon sexe, j'ai eu peur.
Pas tout de suite.
Bonjour. Je voulais compléter un peu l'ensemble des idées que vous avez développées. Bonjour, je suis par là. Oui. Tout simplement, je voulais rester sur certaines œuvres comme Asimov avec l'homme bicentenaire qui, dans l'inverse, va transformer une machine en cyborg, en humain. Et également une autre réponse par rapport à la limite entre cyborg et humanité qu'on peut retrouver dans le cinquième élément, où là, l'humanité est inscrite, ou plutôt l'intelligence est inscrite dans les gènes, à partir du moment où on reconstitue entièrement un corps biologiquement, où on imagine avoir les capacités pour refaire les os, les muscles. Lorsqu'on reconstitue l'individu avec ses gènes, on retrouve l'individu. Voilà, c'était pour continuer un peu là-dessus. L'humanité, redéfinir la limite entre cyborg et humanité, elle s'arrête pas forcément à l'histoire de cette personne, mais elle peut être simplement dans ses gènes, dans sa biologie. Parce qu'on a beaucoup parlé de cyborg au niveau mécanique, un tout petit peu à la fin au niveau biologique, et on se retrouve avec les cellules souches qu'on veut recréer pour reconstruire des organes entièrement chez l'être humain. Est-ce que ces hommes-là, où on importerait une biologie extérieure qu'ils n'ont pas eux-mêmes créée, ce ne sont pas des cellules que leur corps ont créées, deviendraient des cyborgs ?
Alors, la mémoire et la conscience dans le génome, là, c'est de la science-fiction. c'est vraiment, voilà, il y a quand même très très peu de chances que ça marche comme ça. Donc c'est assez rigolo comme idée, hein, mais c'est sans doute une hypothèse à laquelle on ne va pas s'affronter dans la réalité. Le mix biologique, oui, bah oui, à partir du moment où on... Alors, et si on se greffe des ailes de d'aigle, est-ce qu'on est un cyborg ?
On est une chimère, surtout.
On est une chimère. C'est-à-dire qu'on revient à la mythologie, c'est-à-dire qu'on se... Si on se greffe de la biologie extraterrestre, est-ce qu'on est un cyborg ?
On est un mutant, on est autre chose. Mais la notion de cyborg, après, c'est toujours une question de définir les mots. Dans la notion de cyborg, il y a cet aspect technologique quand même qui rentre en ligne de compte. C'est pour ça que, ce que je disais tout à l'heure, moi, je crois beaucoup plus à une évolution vers le biologique que vers le cyborg.
Le terme, c'est quand même...
À part, évidemment, la plaque de métal dans le genou ou le pacemaker. Quoi.
Et le thème est bien construit en faisant cybernétique et organisme. Donc, il y a bien l'idée d'associer le mécanique et le biologique. Voilà. Donc, c'est vrai que si on ne fait pas ça, on sort de notre sujet de conférence.
D'où la demande de définition claire en début. Parce qu'en fait,
qu'on n'aura toujours pas à la fin.
Oui, mais on peut très rapidement en fait, dériver vers effectivement, des sujets qui sont liés, mais pas, peut-être pas... immédiatement identifiable comme exact comme étant relevant du cyborg.
Autre... Moi j'ai une question. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un enjeu esthétique aussi dans le fait d'être un cyborg ? Je vais m'expliquer un petit peu. La mannequin Amy Mullins s'est fait amputer du bas des jambes. Depuis, elle a 12 paires de jambes, dont certaines qui ont été réalisées par des artistes contemporains. Elle s'est fait reprocher par certaines de ses collègues de tricher parce que plusieurs de ses paires de jambes sont plus grandes que n'étaient ses jambes originellement. Il y a beaucoup de gens qui portent des tatouages, qui est aussi une forme d'augmentation non technologique, mais où on joue sur des enjeux esthétiques. Les implants mammaires, c'est déjà de la technologie et c'est utilisé pour partie non négligeable de façon esthétique. Est-ce qu'il n'y a pas, je suis obligé de m'inscrire un petit peu en faux avec ce que vous disiez tout à l'heure, justement au contraire une volonté de modifier son corps pour des raisons d'aspect ?
Alors, il y a toujours eu des volontés de modification esthétique, les scarifications rituelles, le tatouage existe depuis très longtemps. On connaît tous les femmes girafes qui portaient des colliers de plus en plus hauts pour allonger le cou, les Indiens d'Amazonie avec le plateau dans la lèvre. Donc et quelque part, mettre déjà un bout de bois, c'est de la technologie, hein, c'est un élément extérieur. Oui, il y a toujours eu cette recherche de l'esthétique, d'utiliser toutes ces possibilités extérieures pour modifier son aspect esthétique, mais... dans le cas du cyborg, c'est plus modifier ses compétences, ses capacités.
C'est fonctionnel, oui.
Oui, c'est fonctionnel, voilà, plus qu'esthétique.
Dès l'origine, puisqu'on parlait d'améliorer un homme pour aller dans l'espace, donc c'était bien une nécessité fonctionnelle, quoi. Il reste cette idée-là forte dans le cyborg. Après, on rentre dans l'hybride, justement, enfin, pour élargir, qui regroupe toutes les questions, où il y a en effet l'hybridation, là, le vocabulaire s'enrichit énormément tout de suite, quoi.
D'ailleurs, dans le cas de la mannequin, je crois qu'elle a été amputée parce qu'elle avait une maladie grave. Ce n'est pas une modification volontaire uniquement à fin esthétique. Hein. C'est vraiment pour ne pas être handicapée dans sa vie quotidienne au départ.
Hein. C'est Clint Eastwood qui avait des très grandes jambes parce que jeune, il s'était cassé et on l'avait broché, mais en agrandissant les jambes, donc il a des tibias gigantesques. C'est pour ça qu'il a l'air si long. Donc, comme quoi, l'accident à l'origine de la modification esthétique, c'est...
Je voulais savoir finalement si vous avez une réponse par rapport à la différence de la représentation du cyborg en BD japonaise par rapport à la BD qu'on a décrit ici, qui était plus la BD occidentale. Par exemple, on voit Gun, Gali, c'est clairement un robot pour nous, mais non, c'est un cyborg. Pareil dans Ghost in the Shell, c'est ceux qui ont l'apparence la plus humaine qui se révèlent être des robots. Et ceux qui ont l'apparence du robot, c'est eux qui ont un ghost, qui ont une âme et qui se posent des questions là-dessus. Et on pourrait explorer tout le manga pour, avec ces questions, on voit qu'ils ont une vision totalement différente à la nôtre.
Et comme je disais, dans Dragon Ball, ils sont carrément d'apparence totalement humaine, les cyborgs. On voit ça aussi avec le robot. Il y a quand même la haine du robot. Le robot fait peur aux États-Unis et on l'aime au Japon. Là, il y a un rapport à la technologie qui est strictement inverse. Il est probable que ça résonne exactement de la même manière dans le cyborg. C'est-à-dire que cet amour du robot, voilà, c'est le Japon, c'est le pays d'Astro, quoi, le gentil robot, quoi. Les États-Unis, c'est le pays de Robocop, le méchant robot, quoi. On est vraiment, je pense, on retrouve dans le cyborg très précisément ces classements par rapport à la technologie. Le japonais, naturellement, pense que la technologie lui apporte beaucoup et le grandit. Peut-être par son rapport si pacifique à l'artisanat aussi, historiquement. Il y a toute une chose comme ça qui fait qu'ils ont l'impression qu'ils vont maîtriser la technologie et qu'elle leur est favorable, là où l'Américain et souvent l'Européen dans sa traîne a un rapport à la technologie qui va le dépasser, qui ne comprend pas et qui est immédiatement son ennemi. Donc je pense que tous les cyborgs japonais sont beaucoup plus positifs, y compris on admet des apparences robotiques très naturellement, on les voit comme des humains parce que ce sont des humains, bien que ce soit des cyborgs ou des robots. C'est vraiment lié au positivisme par rapport à la technologie et aux robots. Là où au Japon, voilà, justement, c'est des monstres en fait.
Oui. C'est peut-être un peu paradoxal parce que bon, la technologie, c'est quand même ce qui a envoyé aussi deux bombes atomiques sur le Japon. C'est curieux c'est vrai qu'ils aient une telle fascination pour
et qu'il leur a fait sauter une centrale nucléaire à la figure il y a pas longtemps.
Oui, aussi.
Je rajoutais quelque chose avant de passer la prochaine question au niveau de justement du rapport des Japonais à la robotique. C'est moi qui passe le micro en fait. En fait, j'avais entendu ça il y a quelques années aux Utopiales. C'était le rapport en fait à la religion. Et les Japonais sont animistes, c'est-à-dire qu'ils ont tendance à attribuer une âme, un esprit à des objets, à des animaux, alors que en Occident, à l'inverse, les animaux n'ont pas d'âme. Voilà.
Et en plus, un robot qui ressemble à un homme, c'est chez le chrétien. Il y a toujours cette vieux problème de la représentation de l'homme, de la reproduction de l'homme, de l'image qui a souvent été là, qu'on retrouve en partie en ce moment en islam, etc. Donc notre rapport, en effet, en plus à la reproduction de l'homme, à la duplication de l'homme, est très trouble dans nos religions. Donc on a sans doute une accumulation de problèmes d'un côté et de faveurs de l'autre, quoi.
Mais c'est très vrai qu'au Japon, on a beaucoup moins de mal à charger d'humanité d'une âme. N'importe quel robot, cyborg, android ou autre, parce qu'il existe en effet en tant qu'être, pas forcément qu'être humain, mais en tant qu'être. Donc on peut le charger immédiatement d'une empathie pour le lecteur, à une empathie que nous, lecteurs occidentaux, n'avons pas spontanément de la même manière.
Alors, est-ce que vous feriez une différence entre le transhumanisme et le cyborg, finalement? Vous avez deux heures.
On en a parlé tout à l'heure. Ouais. On est clairement sur des questionnements très proches et parfois sur des vrais problèmes de cybernétique organique. Donc, c'est toujours difficile si on restreint ça en fait à la mythologie initiale. Ou si finalement on accepte tous les développements et de tout inclure, quoi. On revient à cette histoire de Robocop qui serait un cyborg, alors qu'en fait non, il correspond pas à la définition, quoi. Donc, vous voyez, c'est pas à nous d'en décider à cette table, j'ai l'impression. Est-ce qu'on utilisera en fait la question, c'est est-ce que dans 20 ans, quand on parlera des transhumains, on utilisera le mot cyborg à leur sujet? Voilà.
Moi, j'ai l'impression que le mot cyborg est appelé à tomber en désuétude assez rapidement. C'est un mot et un concept qui a eu son heure de gloire et qui, à mon avis, on va vers d'autres choses. Et pour recentrer un peu sur notre sujet, nous, ce qui nous intéresse, c'est les histoires qu'on peut raconter autour de tout ça. Et finalement, s'il y a aussi peu d'histoires de cyborgs en BD européenne, c'est que c'est bien un sujet qui n'est pas pour nous central en tant que tel. Quand on est sur le transhumanisme, là oui, il y a beaucoup plus de choses, c'est beaucoup plus vaste, c'est beaucoup plus large, et il y a des champs d'application beaucoup plus intéressants. Le cyborg en lui-même, je crois, est un peu derrière nous. Comme je le disais tout à l'heure, pour moi, c'est plus une notion du 19e siècle que du 21e.
Ouais, je rejoins Christophe là-dessus. On ne va pas dire de son père, qui est un pacemaker, qu'il est un cyborg. Et je pense honnêtement qu'à force de... Enfin, avec l'évolution des technologies et quand on aura une augmentation beaucoup plus importante de l'être humain, ça va se banaliser et on n'aura plus aucune raison d'utiliser un terme qui finalement exprime une sorte de différence, puisque
on se sentira humain avant tout.
Je ne veux pas dire que tout le monde sera augmenté, mais pas loin, finalement.
Ici, nous sommes 5 sur l'estrade. Il y en a 4 qui portent des lunettes. Plus personne ne se pose de questions sur les lunettes. Quoi. Enfin,
donc, c'est... un mot inventé dans les années 50-60, au début de la conquête spatiale, et qui sera mort avant, avec le 20e siècle. Si ça se trouve, ça sera une des notions les plus courtes, un des mythes les plus courts de l'histoire de l'humanité. Oui.
Allez, une dernière question.
Bonjour. Ah, on m'entend plus près. Ok, je rebondis sur la question de tout à l'heure sur les modifications pour un but visuel, notamment dans le cyberpunk avec tout l'aspect chrome porter un bras amélioré parce qu'il est plus puissant, et c'est de la même manière que va montrer ses pectoraux parce qu'on a fait de la muscu. On a un bras amélioré, donc on veut qu'il brille et on montre qu'il est en métal.
Certes.
Voilà. D'accord.
Mais ce qui était quand même intéressant, c'est pour ces modifications corporelles, c'est quand elles se passent en vrai. La jeune femme dont on parlait tout à l'heure, qui s'est fait amputer des jambes suite à une longue maladie, qui finalement est devenue, je crois, championne olympique et mannequin, on la considère comme une belle femme malgré son amputation. Et ça, c'est peut-être intéressant. C'est-à-dire que quelqu'un qui aurait été considéré comme très diminué dans les siècles passés, qui n'aurait sans doute pas eu accès à une vie amoureuse, qui n'aurait même pas été regardée, maintenant est considérée comme une des plus belles femmes du monde. Donc c'est peut-être le signe aussi d'une acceptation à notre époque des modifications corporelles qui commencent à arriver aussi.
Bien, eh ben, je vous remercie pour être intervenu sur le sujet.
Merci.